Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
Game of Thrones, une chanson de place et de fan. Bonjour à toutes et tous, que d'encre et de sang ont coulé à propos de la série Game of Thrones. Alors que les commentateurs avaient les yeux rivés sur Netflix, c'est bien HBO qui a frappé un grand coup avec sa fiction de médiéval fantasy. Fiction diffusée avec succès entre 2011 et 2019. En quelques années, l'adaptation des romans de George R.R. Martin, je le prononce à la française, cette adaptation s'est imposée comme un phénomène de la pop culture avec son lot d'analyses et de livres. Au-delà même de ce qu'on appelle la fanbase, chaque nouvelle saison de Game of Thrones était attendue et débattue. Quel personnage allait mourir cette fois-ci? Les marcheurs blancs allaient-ils envahir le monde? L'hiver décennal s'apprêtait-il à tomber? Et surtout, quand l'ultime saison a été annoncée, qui allait s'asseoir sur le trône de fer? Car Game of Thrones est avant tout une série politique où la lutte pour les places fait rage et décime régulièrement les rangs, car tout se résout à coups d'épée ou de flammes de dragon. Par bien des aspects, il s'agit d'une fiction singulière qui met en scène un nombre invraisemblable de personnages au risque de perdre le spectateur, d'autant que certains changent d'acteur entre deux saisons. Fiction aussi qui n'hésite pas à se débarrasser d'acteurs chevronnés comme Sean Bean pour confier des rôles à des enfants qui vont grandir et évoluer avec la saga. Fiction politique, on l'a dit, qui met en scène des femmes de pouvoir, rudes et impitoyables, qui portent en elles une violence illimitée. Fiction enfin, si l'on devait être critique un instant, qui est parfois un peu bavarde et où l'action ne semble avancer que via des scènes marquantes qui écrasent parfois les moments plus calmes. Mais dans tous les cas, Game of Thrones aura marqué une époque de la télévision et du streaming, et c'est ce qu'on va essayer d'approcher aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Nicolas Allard.
Bonjour Emmanuel.
Nicolas Allard, vous êtes agrégé de lettres modernes et spécialiste de pop culture. Après un livre consacré à Star Wars, vous venez de signer chez Armand Collin l'univers impitoyable de Game of Thrones, et non pas de Dallas.
Alors, oui, c'est bon. Ça.
Alors, peut-être un mot pour nos auditeurs, on le sait, mais on peut peut-être quand même en parler. C'est une adaptation, Game of Thrones, c'est une adaptation d'une saga d'un auteur qui s'appelle George R.R. Martin.
Oui.
Qui est, alors, c'est un peu étrange parce que c'est une saga qui est en cours d'écriture, si j'ose dire.
Oui, exactement. En fait, Le Trône de Fer, hein, puisque c'est le nom des romans en français, c'est une série de cinq romans qui ont été publiés à partir des années 1990 jusque dans les années 2000. Et George Martin donc a vendu les droits d'adaptation de ses romans à une chaîne américaine qui s'appelle HBO, qui a commencé donc à réaliser la série Game of Thrones tant connue. Et la série, au fil du temps, a dépassé les romans. George Martin doit encore écrire et publier deux derniers tomes pour conclure sa saga littéraire. Mais la série a d'ores et déjà donné le dénouement, en tous les cas l'un des dénouements possibles à cette vaste histoire.
Donc l'auteur a été débordé par l'adaptation en série de son œuvre.
Oui, on a un précédent assez célèbre dans le domaine justement de la fantasy, c'est Harry Potter en fait, puisque avec Harry Potter, l'auteur J.K. Rowling a vendu les droits alors même qu'elle n'avait pas fini d'écrire ses romans, mais elle a toujours réussi à garder une certaine avance sur l'adaptation cinématographique, et donc le dénouement était déjà connu des lecteurs avant que les spectateurs ne voit le dernier film d'Harry Potter. George Martin, lui, par contre, n'a pas su surmonter cette pression qui était la sienne, puisque la série sortait chaque année, à la différence, par exemple, des films Harry Potter qui sortaient tous les deux ou trois ans, ce qui laissait un peu plus de marge à J.K. Rowling.
Il faut dire aussi, peut-être rappeler que George Martin a été consultant sur l'adaptation sur la série, donc sur l'adaptation de ses livres, et ça lui a aussi pris, j'imagine, un temps considérable.
Oui, il l'a constaté lui-même, et c'est pour ça d'ailleurs que par la suite il a pris un peu ses distances avec la série, parce qu'il constatait que ça ne lui permettait pas de se livrer à ses activités littéraires. Et puis en même temps il a eu beaucoup de sollicitations parce que la série a connu assez vite un succès mondial, donc il a été amené à participer à beaucoup de manifestations, certaines manifestations très importantes, donc il a perdu du temps également, il n'a pas pu continuer l'écriture sereinement de ses ouvrages.
Est-ce que vous faites partie des gens, Nicolas Allard, qui pensent que la série a connu une baisse scénaristique quand on est sorti des romans, quand ce sont les showrunners qui se sont débrouillés tout seuls.
Oui, je fais partie de cette catégorie-là. Donc, il faut rappeler que globalement, c'est à partir plutôt de la saison 6, il y a 8 saisons au total, c'est à partir de la saison 6 que les showrunners sont dus faire poursuivre l'aventure avec un matériau narratif qui était très faible, puisque George Martin avait indiqué les grandes lignes de la fin de la série et donc des romans, mais sans préciser les détails. Et effectivement, on est nombreux à constater une accélération dans ces dernières saisons, une accélération qui ne fait pas vraiment partie de l'ADN de cette série, puisque dans cette série, on prend le temps, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, de développer les personnages. C'est une série quand même assez bavarde. Et là, par contre, on a vu une accélération assez vive, qui n'est pas sans intérêt, mais qui a quand même fait perdre sans doute un peu de qualité à l'ensemble de la série.
Ouais, j'imaginais aussi. J'avais trouvé aussi que les dialogues étaient un petit peu moins écrits. Alors peut-être restons sur le roman. Moi, je confesse aux auditeurs ne pas avoir lu les romans, mais vous les avez lus pour nous. Il y a un procédé d'écriture de George Martin dans ces romans. Racontez-nous, Nicolas.
Oui, c'est un procédé très original que l'on appelle le personnage chapitre ou le personnage point de vue. C'est-à-dire que les chapitres de George Martin portent toujours sur un personnage précis de son univers de Game of Thrones. Donc, à chaque fois, le titre du chapitre, c'est le nom d'un personnage, et donc on suit les aventures de ce personnage, on a accès à ses pensées intérieures, son point de vue sur les événements, et donc ça permet une vraie variété, une vraie diversité de narration, puisque on ne s'en tient pas à un seul et unique point de vue. On ne cesse de changer de lieu et de personnage à mesure que l'on avance dans la lecture des romans.
On pourrait même lire les romans, vous le suggérez dans votre ouvrage, on pourrait lire les romans uniquement en suivant un personnage, en fait, avec ce mécanisme, on pourrait, quoi.
Pratiquement. Ça pourrait poser des problèmes sur le long terme, parce que les événements que vit tel ou tel personnage sont en lien avec ceux qui seront vécus par d'autres personnages, mais on pourrait s'amuser, en tous les cas, dans un premier temps, à ne lire, par exemple, que les chapitres qui porteraient sur le personnage de Tyrion Lannister, le célèbre nain de Game of Thrones. Ce serait une possibilité.
Ah, c'est très original. Alors, sur l'adaptation elle-même, je parlais de vous l'avez aussi évoqué, la chaîne HBO, qui est une chaîne qui a produit des séries remarquables, hein, comme Oz, Les Sopranos et plein d'autres. Il y a une série qui pourrait presque être vue comme, on va dire, l'apprentissage pour HBO de la production d'une série compliquée, c'est la série Rome. Et vous en dites un mot. Est-ce qu'on aurait pu avoir Game of Thrones sans Rome, Nicolas?
Non, je pense que ça aurait été difficile, parce que la série Rome, donc, qui a été diffusée au début des années 2000, a tout d'abord montré que la série télévisée pouvait être très ambitieuse d'un point de vue visuel, hein, puisque effectivement, c'est une série qui avait de très grands moyens. Il fallait représenter la Rome antique de manière assez précise, assez fiable. Et donc, ça a été la première démonstration du fait que la série télévisée pouvait concurrencer le cinéma. Et l'autre point important, c'est que la série Rome se développe des personnages qui sont en grande partie immoraux, et ces personnages-là ont été appréciés des spectateurs. Il n'y a pas eu du tout de rejet, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans le monde occidental, de ces personnages-là. Et au contraire, la série a été saluée pour son audace et sa capacité à représenter sans véritable euphémisation un monde qui effectivement était très violent, à savoir le monde antique. Donc je pense que effectivement la série Rome a en grande partie préparé le terrain pour Game of Thrones.
Alors, y compris Nicolas Allard, avec des budgets colossaux. Alors, pour Rome, il semblerait que ça a été trop coûteux. C'est pour ça que la série n'a duré que deux saisons, même si elle avait été unanimement saluée. Pour Game of Thrones, on est sur des budgets par épisode qui sont quasiment sans précédent. C'est des budgets de film, enfin.
Oui, c'est impressionnant. Par exemple, pour la dernière saison, la saison 8, chaque épisode a coûté en moyenne à HBO 15 millions de dollars. Donc c'est des budgets que l'on ne trouvait absolument pas dans l'univers de la série télévisée au XXe siècle. Et on voit qu'effectivement ici, la série télévisée s'est vraiment imposée dans notre siècle, le XXIe siècle, comme finalement un média de première importance, et parvenant parfois à concurrencer très fortement le cinéma.
Oui, ça c'est tout à fait impressionnant. Alors, de quel genre, Nicolas Allard, parce que c'est toujours important, enfin, on aime bien en France mettre des choses dans des cases, mais là c'est peut-être un peu plus compliqué, de quel genre relève Game of Thrones ? C'est héroïque fantasy, médiéval fantasy ? Vous avez plusieurs hypothèses dans votre ouvrage.
Oui, Game of Thrones c'est avant tout un univers de fantasy. Donc rappelons qu'un univers de fantasy, c'est un univers merveilleux dans lequel donc la magie fait partie intégrante de ce monde-là, ne surprend absolument pas les personnages qui vivent dans cet univers. Et également, la fantasy se caractérise par le fait de présenter une sorte de Moyen-Âge, mais qui est insituable, en fait. Un Moyen-Âge qui s'inspirerait de différentes traditions européennes. Voilà, donc c'est un univers dans lequel, bien souvent, on va trouver des chevaliers, des châteaux, des princesses, également quelques créatures fantastiques, comme les dragons, c'est le cas en Game of Thrones, et puis parfois des créatures encore plus étranges. L'originalité de George Martin, c'est d'avoir créé les marcheurs blancs, qui sont en fait quasiment des zombies, en tous les cas que l'on peut apparenter pour leur armée à une armée de zombies, ce qui n'était pas si courant dans l'univers de la fantasy, puisque si l'on s'en tient par exemple au monument qu'est le Seigneur des Anneaux avec Tolkien, ici on avait plutôt des créatures qui étaient des orques, des gobelins, des créatures que l'on retrouve assez régulièrement
dans les contes et dans les mythologies.
Voilà, tout à fait. Alors que là, avec George Martin, il s'agissait vraiment de montrer, avec les marcheurs blancs qui initialement sont des êtres qui ont été modifiés à partir de l'humanité, que le mal en fait ne vient jamais de l'extérieur, qu'il est profondément humain. Et ça, c'est une idée très intéressante.
Il y a une autre idée intéressante dans votre ouvrage, c'est, alors qui est un peu pessimiste, c'est que vous nous dites qu'au fond il y a effectivement l'idée de la fantaisie et du merveilleux et de la magie, mais vous écrivez que visiblement quand l'action de Game of Thrones commence, on est déjà dans un monde qui a été un peu abandonné par la magie, où la magie est moins importante. Oui. Et donc, c'est un monde qui est déjà un peu qui a perdu quelque chose, qui est désenchanté.
Tout à fait. Alors, il faut rappeler que George Martin est un grand admirateur de Tolkien, qui est souvent considéré comme le père de la fantasy moderne. Et Tolkien lui propose toujours une fantasy qui est assez sublimée, en fait. Il a une vision très idéalisée du Moyen-Âge, et d'ailleurs, qui va à l'encontre de ce que l'on en sait historiquement. George Martin, lui, a une vision beaucoup plus réaliste de cette époque. Et donc, une des manières de le montrer, c'est de réduire au début de Game of Thrones tous les phénomènes magiques qui restent assez présents. Mais par exemple, au début de Game of Thrones, les dragons sont censés avoir disparu et les fameux marcheurs blancs sont présentés comme une légende, comme ayant appartenu peut-être à l'histoire de l'humanité, mais encore beaucoup en doute. Donc, ici, on a cette idée-là. On constate toutefois qu'à mesure que l'on avance dans les livres comme dans la série, certains phénomènes magiques reviennent. Donc, on est quand même bien dans le domaine de la fantasy, mais une fantasy qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus brutale qu'elle n'existe chez Tolkien, par exemple.
Alors, restons sur cette idée-là. J.R.R. Martin décide de prendre le contre-pied de cette fantasy que vous décriviez, qui peut être un peu hors sol parfois ou un peu idéalisée, aviez-vous dit, chez Tolkien. Il va essayer de faire des choses un peu concrètes, un peu réalistes dans l'univers médiéval qu'il dépeint. Par exemple, la question de l'argent, il y a une banque. Donc là, on est quand même... ça manquait chez Tolkien et Martin l'injecte.
Oui. C'est justement, de nouveau, c'est un grand admirateur de Tolkien, mais il estimait que l'univers de Tolkien n'était pas un univers réaliste, qu'il avait l'impression finalement que les personnages ne pouvaient accomplir que des actes héroïques, mais qu'on ne les voyait pas vraiment vivre dans leur quotidien, exception faite peut-être des hobbits, par exemple. Et ici, George Martin va essayer vraiment de mettre en œuvre un univers très cohérent. Donc, on a la question de l'argent qui revient très fréquemment. On sait que c'est une force, c'est un pouvoir à part entière. Il y a par exemple la famille Lannister dans l'univers de Game of Thrones qui tire une grande partie de son pouvoir du fait qu'elle est extrêmement riche. Et leur devise officieuse, d'ailleurs, est un Lannister paye toujours ses dettes. Donc, on a cette dimension-là qui est très présente, avec effectivement des échanges financiers entre les personnages. On voit bien aussi les personnages parfois être en lien avec des questions de commerce. Donc, c'est un univers qui est assez crédible, en fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les historiens s'intéressent beaucoup plus à Game of Thrones qu'au Seigneur des Anneaux. Finalement, le Seigneur des Anneaux est vraiment une saga très littéraire, alors que Game of Thrones est une saga à la fois littéraire et historique.
Et les historiens s'amusent d'ailleurs à essayer de trouver des correspondances entre le réel, enfin des épisodes, qui seraient le mur d'Adrien pour le mur du Nord. Oui. Bon, voilà. Alors, ça vous a pas intéressé spécifiquement, mais alors, en tout cas, restons sur l'idée géographique. Il y a une nouveauté, il y a une innovation, en tout cas, particulière dans Game of Game of Thrones, Nicolas Allard, dans le générique.
Oui.
C'est un générique qui montre un territoire et qui montre des villes.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en tire?
Oui, c'est vraiment une manière de nous montrer qu'ici, les lieux vont avoir une symbolique extrêmement importante. Et effectivement, dans la pensée de George Martin, les personnages sont toujours influencés d'une manière ou d'une autre par le territoire dans lequel ils ont grandi et se sont développés. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les lieux. C'est également une manière de montrer à quel point on est dans un univers qui est riche, puisque ici, on n'est pas simplement dans l'idée finalement d'un univers qui serait plutôt comme dans l'univers de fantasy, la forêt, avec les châteaux forts, etc. On a des territoires très différents. On a le nord, où là, c'est vraiment un climat qui est très rude, qui pourrait nous faire penser à la Scandinavie. On a le sud, où au contraire, on a des villes très méditerranéennes.
C'est luxuriant, c'est très vert.
Oui, voilà. La capitale, Port-Réal, peut nous faire penser à des grands ports européens comme Marseille ou comme Naples, par exemple. Donc, il y a une très grande diversité. Et les showrunners de Game of Thrones ont voulu justement montrer cette diversité des paysages et aussi à quel point le paysage finalement constitue un personnage à part entière de la série en lui donnant finalement la première place dans le générique de la première à la huitième saison.
Ça marche aussi par château et ce territoire, et ça marche aussi par maison. Et
oui.
Alors vous dites, Nicolas Allard, que on est sur un fonctionnement clanique, enfin un fonctionnement de seigneur, de seigneurie. On appartient d'abord, les personnages appartiennent d'abord à leur maison avant d'appartenir à autre chose ou avant d'avoir une individualité.
Oui, 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 c'est ça. L'idée de la famille est une thématique extrêmement forte dans Game of Thrones. Là aussi, c'est une différence avec Le Seigneur des Anneaux. Finalement, elle est assez peu exploitée et assez peu évoquée. Et les personnages vont avant tout se définir effectivement par ce qu'ils sont en tant que famille. Et ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y aura pas des différences entre eux, mais les liens qui s'établissent entre les personnages d'une même famille sont extrêmement forts, que ce soit positivement ou négativement. On le voit par exemple avec la famille Lannister, où à la fois il y a la volonté chez chaque membre de la famille de perpétuer le plus possible la grandeur du nom Lannister, mais en même temps des tensions au sein de cette famille, par exemple, entre le personnage de Cersei et son frère Tyrion, qui est un nain, et elle estime, Cersei, par exemple, qu'il n'est pas digne, par son statut même de nain, d'être un Lannister. Donc, cette thématique-là de la famille, elle est extrêmement forte, et elle parcourt d'ailleurs l'ensemble de la série et l'ensemble des livres. C'est une thématique qui est toujours présente.
On va écouter quelque chose de très particulier. On va écouter des réactions de spectateurs de la série, donc des gens qui sont devant leur télévision, au moment où se produit une scène très violente. En français, on l'appelle la scène des noces pourpres, en anglais le Red Wedding. Vous allez entendre des cris, donc qui vont être des cris de spectateurs, et les bruits des armes.
And who are you, the proud lord said that I must bow so low.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, Game of Thrones, une chanson de place et de fans. Nous sommes en compagnie de Nicolas Allard. Bon, là, c'est les fans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scène? Est-ce qu'on peut dire que c'est une scène qui, au fond, renvoie presque à un procédé narratif de la série, ce que vous appelez,
oui,
vous, le coup de théâtre permanent, c'est-à-dire à un moment où on s'y attend pas,
oui,
il se passe quelque chose de violent et,
oui,
de terrible.
Oui, 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 tout à fait. Hein. Le coup de théâtre permanent, ça fait partie vraiment de l'écriture de George Martin. C'est une de ses grandes originalités en tant que, qu'écrivain de fantasy. Et d'ailleurs, il a été ensuite beaucoup copié par d'autres auteurs de fantasy, voire d'autres romanciers. Également, certaines séries télévisées s'appuient beaucoup sur ces surprises-là à laquelle, auxquelles on peut difficilement s'attendre. Ici, l'épisode des Noces pourpres est assez emblématique finalement de ce qu'est Game of Thrones, puisque dans les Noces pourpres, il y a donc, on assiste à un mariage qui est censé finalement permettre une certaine paix, une certaine harmonie entre deux familles qui ont été, qui ont connu des tensions, la famille des Frey et la famille des Stark. Et alors que rien ne nous permet de penser qu'il va se produire un événement tragique, plusieurs personnes qui assistent à cet événement heureux sont assassinées, dont une femme enceinte. On la voit d'ailleurs mourir avec un couteau qui est planté dans son ventre. Donc une manière de dire non seulement on te tue, mais on tue également ton enfant à naître. Donc c'est une scène qui a choqué beaucoup de spectateurs et beaucoup de fans de la série, qui nous montre en fait qu'ici George Martin accepte totalement la violence, même si il sait qu'elle peut choquer ou qu'elle peut décevoir ses fans, que ce soit les lecteurs ou les spectateurs, puisque ici il tue notamment des personnages qui ont été très appréciés. C'est le cas par exemple de Robb Stark qui a une cause qui nous semble a priori noble. Il veut venger son père qui a été injustement tué et que vous évoquiez au début de l'émission, qui était incarné par l'acteur Sean Bean. Sa mère était également Catelyn Stark, un personnage très apprécié de l'ensemble des fans, qui faisait plutôt consensus. Donc les tuer ici, c'est une vraie audace narrative, une vraie audace scénaristique si l'on parle de la série. Et c'est également une manière de montrer qu'on est dans un univers finalement où le fait d'être un héros, le fait d'être un personnage aimé ne garantit en rien de survivre. Hein. Et George Martin veut vraiment ici être dans une écriture très réaliste, puisque dans la vie courante également, on peut avoir un statut tout à fait important, être quelqu'un de très apprécié et puis connaître un événement tragique. Donc il veut vraiment ici coller le plus possible au réel, tout en surprenant ses lecteurs et ses spectateurs. C'est ce qui fait que Game of Thrones est une série surprenante, parfois une série déceptive, au sens où elle nous amène finalement vers des endroits, des pistes narratives que l'on n'aurait peut-être pas souhaité.
Alors c'est déceptif, ça peut être déceptif, c'est peut-être ce qu'ont ressenti les fans et les gens pour la dernière saison, c'est-à-dire oui. Qu'au fond, tout le monde avait pris parti, soit pour les Targaryens, soit pour les Lannister, soit pour oui. Les Stark. On ne peut qu'être déçu, puisque voilà, la série a envie d'échapper à un destin. Il y a plein de gens qui ont été tués, il y a plein de pistes narratives qui ont été ouvertes. On est nécessairement déçu dans ce type de
oui.
Série.
De toute façon, un dénouement en littérature ou dans le domaine du cinéma ou de la série télévisée est souvent déceptif, parce que en tant que spectateur ou que lecteur, on projette régulièrement sa fin idéale, surtout lorsque l'on a accordé beaucoup d'importance à l'histoire qui nous était rapportée. Ici, la fin de Game of Thrones a été déceptive, parce que parmi les projections qui avaient été faites, pratiquement aucune ne s'est avérée juste. Beaucoup de spectateurs souhaitaient que ce soit Daenerys Targaryen qui soit sur le trône, et c'est vrai que c'était un personnage qui nous a été présenté tout au long des saisons comme un personnage extrêmement positif, face auquel on pouvait véritablement s'identifier par moment. On avait également le personnage de Jon Snow, on avait plusieurs postulants au trône, et finalement le choix qui a été fait de Bran Stark, qui est donc un jeune homme au moment où il devient roi, et qui semble pourtant
handicapé,
totalement détaché pendant l'ensemble de la série de la question du pouvoir, c'était une fin déceptive pour beaucoup de fans qui ont eu finalement des difficultés à faire une différence entre une fin qui pourrait être finalement logique, acceptable, et a priori cette fin est acceptable, elle se justifie par tout un tas de raisons, et une fin qui correspondrait davantage finalement à leur affect. Et c'est vrai que là, on a eu un mélange entre les deux, et ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de fans a posteriori ont finalement réhabilité cette dernière saison en considérant que le dénouement n'était peut-être pas si mauvais, qu'il était plutôt assez audacieux, assez original, voire logique, simplement, il leur a fallu faire le deuil des postulants qu'ils avaient imaginés sur le trône de fer.
C'est pas le pire, Bran, c'est un roi sage, finalement.
Oui.
C'est pas un enflammé, c'est pas un guerrier.
Oui, c'est même plutôt un message assez positif, puisqu'il est censé, avec les pouvoirs qu'il obtient au fil de la série, il est censé détenir l'ensemble du savoir de l'humanité. Donc en fait, c'est comme si on décidait demain d'élire quelqu'un qui ne serait pas spécialement passionné par le pouvoir, qui ne serait pas un homme politique dans ses fonctions premières, mais quelqu'un qui disposerait d'un grand savoir, d'une grande sagesse. Donc cette fin est loin d'être aussi négative que certains ont pu le dire.
Les Noces pourpres, la scène qu'on évoquait tout à l'heure, à l'instant, c'est une scène très violente. C'est une série assez violente, Nicolas Allard. Est-ce que c'est aussi le choix d'un certain réalisme? Je ne sais pas si le Moyen-Âge était si violent que ça. Il y a débat chez les historiens. Oui. En tout cas, le Moyen-Âge que George Martin a en tête, c'est un Moyen-Âge très violent.
Oui.
Tout est permis.
Oui, tout est permis. L'immoralité la plus totale est permise. On le voit d'ailleurs dans le premier tome et également dans la première saison, lorsque le jeune Bran, justement, qui deviendra ensuite le roi des sept royaumes, est précipité du haut d'une tour par un homme qui le fait donc très volontairement. En fait, il s'agit, là on a vraiment la démonstration de l'immoralité, puisque Bran involontairement surprend un frère en train d'avoir une relation charnelle avec sa sœur. Donc ce sont deux Lannister, Cersei et Jaime, et pour préserver leur secret, Jaime, donc l'homme de ce couple, eh bien décide de précipiter ce jeune garçon qui n'a que quelques années du haut de la tour.
Il le pousse par la fenêtre du haut de la tour.
Oui, exactement. Et donc là on voit bien à quel point cette série est immorale, puisqu'elle nous présente finalement un inceste dès le début, dès le premier épisode. Et également on voit que les enfants ne sont absolument pas épargnés par la violence. On en a la démonstration d'ailleurs tout au long de la série avec les Stark, qui sont pour beaucoup des enfants, puisque cette famille va être peu à peu décimée. Les deux parents Stark meurent assez tôt finalement dans l'intrigue, et les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes.
Oui, ils sont dispersés sur tout le continent.
Et ils sont en fait confrontés régulièrement à une violence extrême. Une des filles de la famille, qui a toujours eu une vision assez sublimée du réel, justement, qui serait plutôt un personnage de Tolkien qu'un personnage de George Martin, eh bien, va être confrontée à différentes horreurs, et notamment...
Sansa qui va
être obligée d'épouser un homme qu'elle n'aime pas nécessairement, et sa nuit de noces qui nous est représentée à l'écran consiste en réalité en un viol. On a le personnage d'Arya, sa sœur, qui est un peu plus âgé, qui a toujours été un peu un garçon manqué, mais qui va être amené finalement à développer beaucoup la dureté qui était la sienne initialement, à tel point qu'elle va devenir ensuite une tueuse quasiment professionnelle. Donc on voit bien ici, c'est l'une des grandes originalités de George Martin, nous montrer que les enfants ne sont pas du tout épargnés par la violence et qu'ils peuvent finalement s'y adapter et même survivre.
Alors, il y a une fille qui, malheureusement, ne survit pas. C'est la fille de Stannis Baratheon. Elle est sacrifiée.
Oui.
Juste avant, pour essayer d'obtenir une victoire. Alors là, pour le coup, on a rarement vu dans une série une jeune fille, une fillette amenée au bûcher, Nicolas Allard.
Oui. On la voit amenée au bûcher. Et le pire dans cette affaire, c'est que les parents y sont favorables. Alors, la mère, au dernier moment, finalement, s'oppose à cet acte-là. Mais son mari, qui aspire à être roi et qui pense retirer un grand avantage, finalement, de ce sacrifice humain, eh bien, va jusqu'au bout de son idée et accepte qu'elle soit brûlée vive. Donc oui, cette violence-là, de toute façon, elle parcourt l'ensemble de la série, du début à la fin. C'est également vrai pour cette question de l'immoralité, avec le fait que l'on insiste beaucoup sur la question du viol, la question de la prostitution aussi. Un des personnages les plus importants dans les premières saisons, c'est le personnage de Littlefinger. Il a des fonctions politiques tout à fait essentielles à la cour de Port-Royal, et il tient un lupanard sans que cela choque le roi ou les membres de la cour royale. Ça paraît tout à fait normal, et on a plusieurs scènes quasiment dans chaque saison où l'on voit des prostituées en train de faire leur travail, en fait.
Nicolas Allard, on disait tout à l'heure, le monde de George Martin, et ici Westeros pour aller vite, est un monde que la magie a presque quitté. Je dirais aussi c'est un monde que la justice a quitté. On peut faire l'hypothèse que l'exécution de Ned Stark, les Stark incarnant une famille plutôt éprise de justice, amène la mort de Ned Stark amène une espèce de disparition de l'idée de justice, et toute la série court après, les enfants Stark courent après.
Oui, exactement. Et en fait, on peut dire que le Trône de Fer et Game of Thrones, finalement, ce sont presque des adaptations littéraires et télévisuelles du Prince de Machiavel, puisque le Prince de Machiavel, finalement, ne consiste pas à donner des conseils pour qu'un prince soit vertueux, mais pour qu'un prince soit capable de conserver son pouvoir le plus longtemps possible. Et on lui demande notamment au prince d'être à la fois renard, de pouvoir être plus malin finalement que ses adversaires politiques, mais d'être également un lion, puisqu'il doit être capable de faire preuve d'une force extrêmement violente vis-à-vis de ses adversaires qui se trouvent à l'extérieur du royaume. Et bien ici, on en a la démonstration. Les personnages les plus vertueux, la plupart du temps, sont victimes de leur vertu. La vertu finalement nous est présentée comme une forme de naïveté, une faiblesse dans cet univers, et ne survivent en réalité que ceux qui sont capables capable, eh bien, de revenir sur une vision du monde qui aurait été beaucoup plus morale.
C'est une série, dites-vous, qui est hobbesienne ou hobbienne, en référence à Thomas Hobbes. On est dans un état de guerre, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un état de guerre, Nicolas Allard, et dans un état d'instabilité politique permanent par le vide de ce trône. En réalité, il est occupé, le trône, par les enfants de Cersei, mais il est vide en pratique. Là, on est quand même dans une instabilité politique, guerrière et de violence permanente.
Oui, c'est ce que je dis dans mon livre, je dis la politique sur un volcan, finalement, parce que cette instabilité-là, elle est permanente. À chaque fois, finalement, celui qui est sur le trône de fer voit son pouvoir menacé. On a des changements assez fréquents de roi ou de reine ensuite dans cette série. C'est une manière pour George Martin vraiment d'indiquer à quel point le pouvoir finalement suscite l'envie, la jalousie, et que finalement, celui qui est le plus en danger, ce n'est pas celui qui dispose d'une grande armée à sa disposition, comme c'est le cas du roi de Westeros. C'est vraiment celui qui est le plus en danger, c'est celui qui est au sommet de la hiérarchie. Et on le voit d'ailleurs dans la dernière saison où Daenerys Targaryen obtient enfin ce pourquoi elle a tant combattu, le trône de fer. Elle le touche, mais elle n'a pas le temps de s'y installer, que elle est tuée par l'homme qui l'aime, Jon Snow, qui décide de la tuer pour une question de bien général. Donc finalement, on voit bien à quel point ici, le pouvoir ne permet jamais, enfin en aucune façon, une vraie stabilité. Ce n'est pas sans rappeler notre époque finalement, où il reste, c'est toujours difficile finalement pour un homme politique de, non pas de conquérir le pouvoir, mais de s'y maintenir.
Vous avez une hypothèse intéressante, Nicolas Allard, qui est de dire que peut-être qu'au fond, ce trône, il n'aurait pas fallu l'occuper. C'est-à-dire que vous dites, visiblement, il y a une tradition à Westeros qui était qu'il n'y avait pas une famille régnante sur l'ensemble. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la quête du trône de fer, elle n'est pas légitime d'emblée parce qu'elle vient heurter une tradition ou des velléités d'indépendance des provinces.
Oui. Il faut rappeler qu'initialement, c'est ce territoire-là qui s'appelle Westeros, donc est composé de plusieurs royaumes qui n'ont été unifiés que très tardivement, en fait. C'est à peu près 200 années avant le début de la série et le début des livres. Et c'est une famille qui venait de l'extérieur de Westeros, la famille Targaryen, celle que l'on associe au dragon, qui a imposé son pouvoir et imposé donc la réunification de tous ces royaumes-là. Mais cette réunification est finalement très récente et elle ne va pas de soi. Et ce que nous montre justement toute l'instabilité que l'on voit dans la série et les romans, c'est qu'il ne faut pas nécessairement faire preuve de cette ingérence-là, que d'une manière ou d'une autre, le naturel des peuples finit par ressurgir et crée de nouveau cette instabilité. On le voit d'ailleurs à la fin de la série, où le Nord, qui est donc désormais gouverné par le personnage de Sansa Stark, retrouve l'autonomie qui était la sienne par le passé. Le nouveau roi de Westeros, qui lui-même est issu du Nord, Bran Stark, est conscient finalement que ce modèle qui vise à unir un peu artificiellement des territoires qui sont très différents culturellement, géographiquement, eh bien cette ambition-là est vaine et n'aboutira finalement qu'à une nouvelle instabilité.
Et c'est peut-être parce que cette ambition était vaine au départ que ça a rendu fou tout le monde, littéralement fou, Nicolas Allard, notamment Daenerys, les malheureuses gens qui ont donné un prénom à leur enfant qui était Daenerys ont regretté, mais ça, c'est une quête qui les corrompt dès l'origine.
Oui, tout à fait. On voit finalement que à mesure que le pouvoir se montre de plus en plus séduisant, eh bien il y a une corruption de l'âme, et Daenerys en est la meilleure démonstration, puisque initialement, elle souhaite avant tout obtenir le pouvoir pour justement faire le bien autour d'elle. Elle avait véritablement envie que son œuvre soit une œuvre sociale, en réalité.
Oui, elle libère des esclaves.
Voilà, elle libère des esclaves. Elle fédère autour d'elle des personnalités qui sont extrêmement différentes, ce qui montre qu'elle pourrait effectivement être une souveraine telle que les sept royaumes devraient l'attendre. Et en réalité, à la fin, elle est gagnée par une forme de folie et elle décide finalement de faire table rase de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en brûlant l'ensemble de la capitale avec son dragon, sans nécessairement faire la distinction entre ses véritables adversaires et la population qui vit déjà dans une extrême précarité et qui ne lui serait pas a priori défavorable, puisque la population aurait le temps de constater que c'est une souveraine vertueuse. Donc là, on a vraiment la démonstration que le pouvoir finalement corrompt de manière terrible, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à la fin, le personnage de Jon Snow, qui a pu exercer des fonctions de roi du Nord, à un moment donné, eh bien, décide, une fois qu'il a obtenu sa liberté, d'aller vivre au-delà du mur avec les Sauvageons pour ne plus dépendre finalement de ces conceptions politiques-là. Il veut, au fond, conserver sa pureté.
Vision politique très particulière. On parlait des allers-retours possibles entre notre époque et l'époque que dépeint Martine. On est en présence de seigneurs, on est en présence d'une espèce d'oligarchie, au fond, de gens qui se partagent le pouvoir. Et vous racontez que, par exemple, je crois que c'est à Port-Réal, à Winterfell, je ne sais plus, mais c'est un cloaque. Enfin, il n'y a pas l'idée de s'occuper du bien commun. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'occupent que de leurs intrigues. Et l'idée d'avoir des politiques publiques, pour le dire avec un mot moderne, ça leur traverse pas du tout l'esprit.
Oui, oui. Vraiment, on est dans un système féodal, en fait, dans lequel le prince, le roi, doit avant tout penser à ses intérêts personnels, veiller à ne pas mécontenter ses vassaux, ses barons. Mais ensuite, le peuple, effectivement, est considéré comme très secondaire. Ce n'est pas du tout l'objet principal de la politique publique, s'il y a une politique publique, parce qu'on peut véritablement en douter. On en a la démonstration au début de la série et des romans avec le roi Robert Baratheon, qui a mis fin à un règne d'un roi qui était jugé justement comme le roi fou, c'est ainsi qu'on l'appelait, c'est le père de Daenerys Targaryen. Et on nous présente ce personnage de Robert Baratheon comme un être fondamentalement bon, qui a été un grand conquérant. Mais on nous montre bien qu'une fois qu'il a été sur le trône, et il l'a occupé pendant près de 17 années, eh bien, il n'a absolument rien fait pour améliorer la situation du peuple. Et ce qui est assez frappant dans Game of Thrones, c'est que la capitale, Port-Réal, finalement, est un lieu dans lequel la précarité, la pauvreté sont omniprésentes. Et c'est assez incroyable. Quand on regarde la série, la première fois, on doute presque qu'il s'agisse de la capitale, puisqu'on l'associerait plutôt à une certaine splendeur, à une certaine élévation. Or là, ce n'est pas du tout le cas.
Je voudrais qu'on écoute une petite compilation de dialogues relatifs aux femmes dans Game of Thrones.
Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground.
What do we say to the god of death?
Not today.
He's a clever man, your hand.
I've known a great many clever men. I've outlived them all.
Valar Morghulis.
Yes, all men must die. But we are not men.
It's a beautiful dream. Stopping the wheel.
I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel.
Finally, a girl is no one.
I'm Sansa Stark of Winterfell. This is my home, and you can't frighten me.
Nige Daenerys Jelmasmo and Targaryen Entrot, and Valyria Whipoanagar is there.
A girl is Arya Stark of Winterfell.
I now proclaim Cersei of the House Lannister, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms.
Tell Cersei, I wanted to know it was me.
I don't like the idea of a woman leading a caravan.
You will like it far less when I am done.
She can't lead an attack.
Why not?
You're a woman!
You're the one who's guards.
Shall we begin?
Shall we begin?
Now we will begin the dance.
The world doesn't just let girls decide what they're going to be.
The lords of Westeros are sheep. Are you a sheep?
La valeur de l'homme, fréquence protestante, Game of Thrones, une chanson de place et de fan. Nous sommes en compagnie de Nicolas Allard. Alors, autre différence avec Tolkien, si on le prend sous cet angle-là, c'est que chez Tolkien, les femmes étaient globalement absentes. Enfin, c'était les grandes absentes.
Oui.
Chez Martine, non seulement il y a des femmes, mais il y a des femmes de pouvoir. Et ce sont des personnages à part entière, avec une force importante.
Oui, exactement. Alors, c'est vrai que dans la fantasy, pendant très longtemps, la femme était simplement associée à la question de l'amour. Au fond, elle était la récompense que le guerrier venait récupérer, obtenir à la fin de sa quête. C'est le cas dans Le Seigneur des Anneaux avec Aragorn et Arwen, qui est beaucoup plus présente d'ailleurs dans les films que dans les livres où on ne la voit pratiquement pas. George Martin, lui, est vraiment en avance là sur les tendances actuelles, puisque maintenant c'est presque normal, voire apprécié, c'est presque une norme effectivement de voir des personnages féminins être les héroïnes de grandes sagas de fantasy ou de science-fiction. On peut penser par exemple à la dernière trilogie Star Wars où le personnage principal principale, Rey, est une femme. Et George Martin, lui, écrit, rappelons-le, dans les années 90, à un moment donné où ce n'est pas du tout une tendance. Et il décide vraiment de faire de la femme un élément central de son écriture de fantasy. Donc, on a ici des femmes qui sont extrêmement différentes également. On ne les limite pas à un seul rôle. Et ce n'est pas caricatural. Il aurait très bien pu partir dans un extrême inverse et présenter les femmes non pas comme des mères, mais comme de pures guerrières. Or, les femmes dans l'œuvre de George Martin, ce sont des amantes, des mères, des guerrières, des femmes de pouvoir qui sont capables effectivement d'assurer un rôle politique de premier plan. On peut en citer deux, notamment on a le personnage de Cersei Lannister qui est finalement une conseillère politique officieuse pendant une grande partie de la série et qui à la fin devient même reine des sept royaumes. Alors son règne ne durera pas très longtemps, mais c'est quand même la première femme à pouvoir monter sur le trône de fer. On a également le personnage de Catelyn Stark qui va être finalement une conseillère politique beaucoup plus avisée que ne l'est son fils Robb Stark. C'est elle qui le prévient justement un peu sans le savoir que les noces pourpres seraient un événement possible et lui ne tient pas suffisamment compte de ses conseils. Et puis bien sûr on a le personnage de Daenerys Targaryen qui ici assure des fonctions politiques dans une ville qui s'appelle Meereen, qui se trouve donc à l'extérieur du territoire de Westeros. Et dans cette ville-là, elle tient tête à beaucoup d'hommes qui étaient habitués à ce qu'il y ait une grande tradition esclavagiste et elle s'oppose à cela. Elle casse un moule qui existait depuis très longtemps. Donc les femmes ici dans cet univers sont des personnages extrêmement forts et extrêmement riches.
Je voudrais qu'on termine cette émission en s'intéressant au dernier épisode ou à la dernière saison, oui. Nicolas Allard. C'est un dernier épisode qui est très ouvert.
Oui.
On voit un certain nombre de personnages principaux qui vont deviser, parler ensemble et évoquer le futur de Westeros. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, alors c'est toujours difficile de clore une série, on peut considérer que les showrunners ne l'ont pas complètement fermée, au contraire, ils l'ont ouvert, et ils l'ont ouverte par le biais des destins très différents des personnages, destins auxquels on ne s'attend pas nécessairement. Alors on peut peut-être en évoquer deux, trois figures, la figure de Jon Snow,
oui.
La figure de Dario, la figure de Sam Tarly. Qu'est-ce qui arrive à ces personnages en fin de parcours?
Oui, alors vous avez eu raison de le signaler. La série, telle qu'elle a été pensée dans le dernier épisode, elle ne se clôt pas sur le fait de voir simplement la question de la politique dans la capitale, Port-Réal. On nous montre à chaque fois que les personnages importants, qui sont encore en vie, puisqu'il n'y en a plus beaucoup, eh bien, vont suivre des voies très divergentes. Par exemple, le personnage d'Arya décide de monter sur un bateau et de partir à l'aventure, d'aller découvrir des territoires qui n'ont encore jamais été exploités. Donc là, c'est une grande ouverture qui nous est présentée puisqu'il ne s'agit pas du tout pour elle de vivre des aventures qui auraient été similaires à celles qu'elle aurait déjà connues, mais de se confronter à l'inconnu. On a le personnage de Jon Snow qui, lui, décide donc d'abandonner absolument toute ambition politique.
C'était un vrai prétendant au trône.
C'était un vrai prétendant au trône puisqu'on apprend que il est finalement son père était un Targaryen et donc il aurait eu une légitimité à exiger le trône de fer et lui préfère justement ici être dans une perspective où il choisit finalement le bonheur, un bonheur personnel, un bonheur assez simple. Ça fait presque penser au mythe du bon sauvage, c'est-à-dire que il considère finalement que la vie dans la cité n'est pas une vie saine, n'est pas une vie souhaitable et il a d'autant plus ce regard-là que, rappelons-le, c'est un personnage qui est tué pendant la série et qui est miraculeusement ressuscité. Donc il a forcément un regard différent sur la vie. On peut aussi considérer qu'il y a une certaine ouverture avec le personnage du roi Bran Stark, puisque c'est un personnage qui est censé avoir une certaine omniscience et avoir des connaissances extraordinaires. Dans quelle mesure cela fera-t-il ou non de lui un bon roi? Est-ce que ça va être le roi le plus juste que l'on puisse imaginer? Ou au contraire, est-ce que ses connaissances qui sont surhumaines vont faire de lui un roi qui finalement va être assez peu humain, assez peu empathique, puisque on peut quand même considérer, et c'est une des questions que pose la série, que certes le pouvoir politique est toujours imparfait, mais peut-être son imperfection est-elle liée, est-elle adaptée à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, à savoir des êtres finis. Donc il y a plusieurs ouvertures qui sont possibles ici avec ce dernier épisode.
On va laisser vos mots se déposer dans nos esprits sur la nature du pouvoir politique. Merci beaucoup, cette émission s'achève. Merci beaucoup Nicolas Allard d'être venu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'univers impitoyable de Game of Thrones. C'est sorti chez Armand Collin en 2018. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.
different coat. That's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. And mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. So he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains we pour his fall, with no one there to hear. Yes, now the rains we pour.